Chapitre 5. 19 juin 2201. Je manque de vocabulaire pour décrire ce que je viens de vivre. Le terme stupéfiant, par exemple, ne peut traduire à quel point ces longues heures passées dans la cuve ont été extraordinaires. J'ai déjà fait de telles expériences provoquées par des catalyseurs chimiques à l'âge de 7 ans lors de la cérémonie du Poro en Côte d'Ivoire et plus récemment après avoir bu le contenu de la fiole de mai dans le puits où j'avais fait une chute. Cependant, ces deux voyages ou visions avaient été très brefs alors qu'ils ont duré des heures à l'intérieur de la cuve. Avant de me lancer dans une description du monde que contient mon esprit, il me faut résumer les faits qui se sont réellement produits ces dernières semaines afin de situer les événements hallucinatoires dans leur contexte. Notre vie quotidienne est devenue routinière. Le vaisseau poursuit sa manœuvre selon deux modes. Normal, lorsque le sol tremble et qu'il est presque possible de vivre comme à l'accoutumée. Et turbo, quand Rama subit une accélération impensable que Richard estime désormais supérieur à 11 G. Nous devons alors nous réfugier dans la cuve et y séjourner près de 8 heures d'affilée. Tout est prévu pour faciliter notre assoupissement. Les lueurs s'éteignent après un bon quart d'heure et les ténèbres qui s'ensuivent ne se dissolvent que 5 minutes avant l'ouverture du caisson. Nous nous éloignons de plus en plus vite du soleil. Selon Richard, si le cycle actuel se poursuit pendant 1 mois, nous nous déplacerons alors à la moitié de la vitesse de la lumière. « Où allons-nous ? » a demandé hier Michael. « Il est trop tôt pour se prononcer, » lui a répondu Richard. « La seule chose que nous savons, c'est que nous nous y rendons à une allure impensable. » La température et la densité du fluide qui emplit la cuve ont été progressivement modifiées pour correspondre aux nôtres. Quand nous gisons dans l'obscurité, la pression qui s'exerce sur mon corps est infime. J'ai conscience de flotter dans un liquide, mais l'absence de toute sensation me fait oublier que je suis matériel. Et c'est alors que débutent les visions, comme si mon cerveau avait impérativement besoin de garder un contact avec le monde extérieur pour être opérationnel. Privé des sens de l'ouïe, de la vue, du goût, de l'odorat et du toucher, son fonctionnement est fortement perturbé. J'ai abordé ce sujet avec Richard, qui m'a dévisagé comme si j'étais folle. Pendant ses séjours dans ce qu'il appelle la 4e dimension, autrement dit l'état qui précède le sommeil profond, il fait des calculs, reconstitue des cartes de la Terre ou revit certaines de ses expériences sexuelles. Il contrôle ses activités cérébrales, même en l'absence de toute stimulation sensorielle. C'est ce qui nous différencie. Lorsqu'il n'a pas à traiter des milliards d'informations transmises par les cellules de mon corps, mon esprit proclame son indépendance. La matérialisation d'un point rouge ou vert dans les ténèbres sert de prélude aux apparitions. Cette tache se dilate et d'autres aux contours irréguliers, dans des tonalités de jaune, de bleu et de pourpre, envahissent mon champ de vision. La ronde des fragments qui composent ce kaléidoscope accélère. Ces éléments fusionnent et se dissocient. Au cœur de cette ébauche de couleurs se matérialise alors une image, trop lointaine pour être identifiable. Puis elle se rapproche, et je reconnais fréquemment ma mère, ou un des félins qui la représente. Je la vois tant que je me cantonne à un rôle de simple observatrice, mais sitôt que j'essaie d'établir un contact, elle disparaît et je souffre de son abandon. Lors d'une hallucination récente, les ondes colorées se sont fragmentées en motifs géométriques qui ont progressivement fusionné pour reproduire des silhouettes qui traversaient en file indienne mon champ de vision. Homais ouvrait la marche, en boubou vert vif. Le cortège était clos par 2 femmes, les héroïnes de mon adolescence, Jeanne d'Arc et Aliénor d'Aquitaine. Dès que j'entendis leur voix, la procession se volatilisa et la scène changea. Je me retrouvai dans une barque, par un petit matin brumeux, sur l'étang de notre propriété de Beauvois. Je tremblai de peur et me mis à pleurer. Jeanne et Aliénor apparurent dans la nappe de brouillard pour m'affirmer que mon père n'épouserait pas Héléna, cette duchesse anglaise avec qui il était parti en vacances en Turquie. Une autre nuit, le lever de rideaux colorés fut suivi par une étrange représentation théâtrale quelque part au Japon. La pièce hallucinatoire ne mettait en scène que deux personnages, aux traits dissimulés par des masques laqués très expressifs. L'homme en costume occidental et cravate récitait des poèmes. L'autre portait une tenue de samouraï du XVIIe siècle. Les sourcils froncés de son visage peint étaient menaçants, de même que les propos qu'il lançait au second acteur et à moi-même. Quand les deux hommes se rejoignirent au centre de la scène pour fusionner en un seul personnage, je poussai un hurlement qui mit un terme à la vision. La deuxième ou la troisième nuit, le prince Henri, nu et enflé de désir, fit une apparition de 2 ou 3 secondes alors que je chevauchais un octopode géant. Hier, j'ai attendu plusieurs heures l'apparition du kaléidoscope. J'étais tenaillé par la faim et une énorme pastèque manne rose s'est matérialisée dans l'obscurité. Quand je me suis approché pour y goûter, des pattes lui ont poussé et elle a détalé. Tout cela a-t-il un sens? Ces débordements apparemment incontrôlés de mon imagination contiennent-ils des informations sur mon être ou sur ma vie? Le débat sur la signification des rêves, ouvert voilà près de 3 siècles, n'a toujours pas été tranché. Ces visions sont encore plus éloignées de la réalité que les simples songes. Elles me font penser aux 2 voyages psychédéliques que j'ai effectués par le passé, et vouloir les analyser serait absurde. Mais je crois malgré tout que ces divagations de mon esprit contiennent des vérités fondamentales. Peut-être parce que je refuse d'admettre que le cerveau humain peut s'aventurer si près de la folie. 22 juillet 2201. Hier, le sol a finalement cessé de trembler. Richard l'avait prédit. Il y a 2 jours, quand nous n'avons pas eu à retourner dans la cuve, il nous a annoncé que la manœuvre s'achèverait sous peu. Voici donc que débute un nouvel épisode de notre odyssée. Selon mon époux, nous voyageons à plus de la moitié de la vitesse de la lumière, ce qui revient à dire que nous parcourons la distance séparant la Terre de la Lune en 2 secondes environ. Nous nous dirigeons vers Sirius, la plus lumineuse des étoiles qui scintille dans le ciel nocturne de notre monde natal. En l'absence de nouvelles manœuvres, nous arriverons dans ces parages dans 12 ans. Nous menons une existence plus paisible, et je m'en félicite. Simone paraît avoir bien supporté ses longs séjours dans la cuve, mais je doute qu'un nourrisson puisse vivre de telles expériences sans en être affecté. Ne serait-ce que pour elle, nous devons retrouver nos anciennes habitudes. Quand je réfléchis à ce que j'ai vu au cours de mes 10 premiers séjours dans la cuve, je dois admettre que j'ai été ravi quand mes hallucinations ont été finalement remplacées par la 4e dimension, cet état de privation sensorielle totale. Je commençais à m'inquiéter pour ma santé mentale. Il n'y a eu ensuite qu'une seule autre vision, et peut-être n'était-ce qu'un simple rêve, les réminiscences d'anciennes expériences psychédéliques. J'assistais avec mon père à un concert donné par un vieil oriental à la longue barbe blanche qui jouait d'un étrange instrument à cordes. Mais contrairement à ce qui s'était passé dans le cadre du voyage hallucinatoire effectué au fond du puits, nous ne nous métamorphosâmes pas en oiseaux pour voler jusqu'à Chinon. Non, le corps de mon père s'effaça et il ne resta que ses yeux. D'autres yeux les rejoignirent pour dessiner un hexagone au-dessus de moi dont ceux d'Omé et de ma mère. Les yeux du sommet de la figure géométrique me fixaient sans ciller, comme pour tenter de me communiquer un message. Juste avant l'interruption de la musique, j'entendis plusieurs voix prononcer le mot « danger ». Qu'est-ce qui engendrait ces hallucinations et pourquoi étais-je la seule à en avoir? Également coupés de leur sens, Richard et Michael voyaient à l'occasion des formes abstraites flotter devant eux, mais rien de cohérent. Si, comme nous le supposions, les Raméens nous injectaient par l'entremise des filaments qui formaient un cocon autour de nous des drogues destinées à favoriser notre assoupissement, pourquoi étais-je la seule à réagir de cette manière? Les hommes attribuent cela à mon imagination débordante et refusent d'approfondir le sujet. J'aurais pu m'attendre à une telle réaction de la part de Richard, mais pas de Michael. Il a beaucoup changé depuis nos premières immersions. Il a d'autres préoccupations, dont il ne m'a que ce matin vaguement révélé la teneur. Je le harcelais de questions, et il a répondu « Au niveau de l'inconscient, j'ai remis constamment à jour ma définition de Dieu et de ses attributs en fonction de chaque découverte scientifique. J'ai pu ainsi concilier l'existence des Raméens et mon catholicisme, mais à présent que je suis à bord d'un vaisseau spatial qui se déplace à des vitesses relativistes, je dois le libérer de tous les carcans que lui ont imposé les hommes. Ce n'est qu'à cette condition qu'il peut conserver son statut d'être suprême de tout l'univers. Le défi qu'il me faut relever est bien différent. Mes compagnons s'intéressent à des concepts abstraits, scientifiques et techniques pour Richard, et spirituels pour Michael. Se livrer à de tels jeux de l'esprit est stimulant. Mais mes compagnons oublient que nous portons la responsabilité de préparer la seule représentante de la génération suivante à sa vie d'adulte et tout laisse à supposer que ce rôle m'a été dévolu. J'accepte bien volontiers de l'assumer. Quand Simone m'adresse un sourire radieux, j'oublie tout le reste. Que Dieu existe et que les Raméens sachent utiliser l'eau en tant que combustible est-il important ? Pour l'instant, la seule chose qui compte pour moi, c'est que je suis une mère. 31 juillet 2201. C'est le printemps dans Rama. Le dégel a débuté dès la fin de la manœuvre. En surface, la température avait chu à moins 25 degrés et nous commencions à nous inquiéter. À présent, nous gagnons près d'un degré par jour, et à ce rythme, nous passerons au-dessus de zéro dans 2 semaines. Nous avons laissé le système solaire derrière nous et traversons l'espace interstellaire. Notre soleil domine toujours le ciel, mais nous ne voyons plus aucune de ces planètes. D'où provient la chaleur qui réchauffe l'intérieur de Rama en ce cas? Quand Michael lui posa cette question, notre expert répondit immédiatement « Du réacteur nucléaire qui nous a imprimé une accélération foudroyante. Ce vaisseau doit avoir 2 modes de fonctionnement. À proximité d'une source d'énergie telle qu'une étoile, les systèmes primaires dont la propulsion et le chauffage sont coupés. » Je le félicitais pour cette explication et j'ajoutais « Mais pourquoi ? Je ne peux proposer que des hypothèses. Peut-être pour procéder à des opérations de maintenance réalisables uniquement dans les parages d'un foyer de chaleur. Dès l'instant où des biotes entretiennent la surface interne de Rama, d'autres sont peut-être chargés d'effectuer le même travail sur ces éléments mécaniques.
« Une autre possibilité me vient à l'esprit », déclara Michael. « Croyez-vous que nous étions destinés à nous retrouver à bord de ce vaisseau ?
Que voulez-vous dire ? S'enquit Richard en fronçant les sourcils.
Pensez-vous que nous sommes ici par un pur effet du hasard ou qu'en fonction des caractéristiques de notre espèce, il était prévisible que des représentants de l'humanité profiteraient du ralentissement de Rama pour aller l'explorer ?
En d'autres termes, il suggérait qu'en plus d'être des scientifiques et des techniciens hors pair, nos hôtes pouvaient se targuer d'être des experts de la psychologie universelle. Richard n'avait pas suivi son raisonnement.
Vous pensez qu'ils auraient réduit leur vitesse à proximité de la Terre pour nous inciter à visiter leur vaisseau ?
Demandai-je. C'est ridicule, rétorqua aussitôt Richard.
Quelles auraient été les probabilités de contact si Rama avait traversé notre système à sa vélocité actuelle ?
Demanda Michael.
Et n'avez-vous pas affirmé qu'il peut y avoir d'autres étrangers tels que nous à son bord ? Je doute que de nombreuses espèces aient la capacité.
Je profitais d'une interruption dans la conversation pour leur rappeler que la mer cylindrique commencerait sous peu à fondre et que son dégel s'accompagnerait d'ouragans et de raz-de-marée. Nous décidâmes de récupérer le voilier laissé au Cambetta. Les deux hommes mirent un peu plus de 12 heures pour effectuer l'aller-retour sur la glace. La nuit était tombée lorsqu'ils regagnèrent notre abri, et Simone, qui reconnaissait à présent son entourage, tendit les bras à Michael.
« Je constate avec plaisir que quelqu'un est heureux de me revoir », plaisanta Michael.
« Tant que c'est Simone », grommela Richard. Je le trouvais étrangement tendu et distant. Quand nous allâmes nous coucher, son humeur ne s'était pas améliorée.
« Que se passe-t-il, mon chéri ?»
lui demandai-je. Il ne me répondit pas. Je déposai un baiser sur sa joue et me contentai d'attendre. « C'est Michael, » dit-il enfin. « Je n'ai compris qu'aujourd'hui qu'il est amoureux de toi. Pendant que nous tirions le bateau sur la glace, il n'a cessé de me vanter tes mérites. Tu es à ses yeux la mère idéale, la femme idéale, l'ami idéal. Il a même avoué qu'il m'enviait.
Tu accordes trop d'importance à ses propos. Il m'aime bien, tout simplement, et c'est réciproque.
Voilà ce qui me tracasse. Il s'occupe de Simone quand tu as d'autres activités. Il te tient compagnie pendant que je travaille sur mes projets. Il se tut et m'adressa un regard étrange, effrayant. Je n'avais plus en face de moi l'homme que j'avais épousé. Et je frissonnais quand il se pencha vers moi pour m'embrasser. Nous fîmes l'amour et il s'endormit. Puis Simone se mit à pleurer et tout en lui donnant le sein, je reconstituai ce qui s'était passé depuis que Michael nous avait rejoints au pied du télésiège. Rien n'avait pu éveiller la jalousie de mon mari. Nous avons régulièrement des rapports sexuels, même s'il manquait un peu de fantaisie depuis la naissance de notre fille. La lueur de folie aperçue dans les yeux de Richard continua de me hanter bien après que Simone eut fini de téter, et je pris la ferme résolution de consacrer à l'avenir plus de temps à mon époux.